Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
C'est le moment des lectures bibliques en vue de la prédication. Alors la première, c'est dans le psaume 118, et le psaume 118, nous l'avons déjà lu, où il est question de cette pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Maintenant, un deuxième texte, c'est dans Ésaïe, au chapitre 5, les sept premiers versets. Ésaïe 5, 1 à 7. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. Juste un verset maintenant dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et maintenant dans l'Évangile de Marc, le texte proprement dit de la prédication. Marc 11, verset 27 jusqu'au chapitre 12, verset 12. Il est question de Jésus et de ses disciples. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné l'autorité pour le faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux « C'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent.
Qui a l'autorité aujourd'hui pour notre compréhension de la Bible? Dans votre tête, qui a l'autorité? Est-ce notre raisonnement personnel ou est-ce le Saint-Esprit qui nous guide? Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit guide nos cœurs, mon cœur, vers sa parole. Nous voici aujourd'hui à nouveau plongés dans la dernière semaine de vie de Jésus dans l'Évangile selon Marc, que nous suivons donc dans les prédications des derniers dimanches du mois. Pierre se souvient bien de cette matinée du dernier mardi de la vie de Jésus, qui a commencé par une explication du figuier desséché. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, qui lui avait permis de comprendre l'action publique de Jésus du nettoyage du temple le lundi précédent, ce mardi. Et ce lundi, d'ailleurs, Jésus avait même guéri des malades dans le temple et ainsi manifesté sa gloire et sa puissance et son origine. Ça, c'était lundi, hier. Et aujourd'hui, mardi, donc dans le texte, Jésus retourne au temple, ce qui empêche le trafic de reprendre, puisqu'il avait chassé tous ses vendeurs dans le temple, et va pousser les bénéficiaires de ce trafic à réagir. Alors les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, viennent vers Jésus. Ils commencent par une question. C'est la question qu'on a entendue ce matin. Par quelle autorité? En fait, c'est le titre de notre premier point de ce matin. Par quelle autorité? Et nous verrons que Jésus est en fait rempli de bienveillance envers ceux qui viennent vers lui, tout en les responsabilisant. Il est rempli de bienveillance tout en les responsabilisant, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec nous. Après la première épreuve passée, Jésus enseigne et pose aussi une question. Dans la parabole que l'on va voir ensemble, Jésus pose aussi une question, c'était « N'avez-vous pas lu ?» C'est le titre de notre deuxième point de cette prédication. Et nous verrons la bonté, la patience extraordinaire de Dieu, son jugement et son projet qui invite ses auditeurs à s'attacher à lui. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec nous, comme nous allons le voir. Alors afin d'avoir bien en tête la première épreuve proposée par les chefs du peuple juif ce mardi, de la dernière semaine de vie de Jésus, je vous propose de relire le texte de Marc 11, les versets 27 à 33 dans vos Bibles. Alors ouvrez vos Bibles, gardez-la ouverte dans Marc 11 et nous lirons les versets 27 à 33 pour nous remettre bien dans cette histoire dans la tête. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné l'autorité de le faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes ?» Ils craignaient le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Cherchons à comprendre ce qui se passe ici dans ce texte. Les chefs du peuple demandent à Jésus par quelle autorité il chasse les vendeurs du temple. Ça s'est passé hier, vous vous souvenez. Et en fait, c'est un piège ici. Parce que s'il répond de Dieu, ils l'accuseront de blasphème et pousseront tout le monde à le lapider. Et s'il répond qu'il agit sans autorité divine, eh bien, ils l'accuseront de causer du désordre et de blasphémer le temple de Dieu et le feront exécuter. Mais Jésus connaît leur fourberie.
Ça veut dire quoi la fourberie ? On va prendre un mot ce matin.
Être fourbe, c'est tromper et mal agir tout en faisant semblant d'être honnête. Donc Jésus connaît leur fourberie. Et il va leur donner la possibilité de prendre leur responsabilité en leur posant une question avant de donner sa réponse. Et voici trois buts de Jésus en posant cette question, sa question à ses opposants. Il a trois buts. Peut-être qu'on en trouvera encore d'autres, mais je vous en donne trois ici. Le premier, c'est de mettre en lumière leur motivation. En posant sa question, Jésus veut mettre en lumière leur motivation. Deuxièmement, il veut leur permettre de véritablement prendre leur responsabilité de conducteurs qui disent ce qui vient de Dieu ou non. Donc prendre leur responsabilité. Les chefs du peuple, les chefs religieux avaient la tâche de reconnaître si quelque chose venait de Dieu ou non. C'était à eux de dire si cela venait de Dieu ou non, basé sur les Écritures. Donc voilà un deuxième but, hein, leur permettre de véritablement prendre leur responsabilité de conducteurs qui discernent ce qui vient de Dieu ou non. Et troisièmement, eh bien les appeler à reconnaître qui il est. Puisque sa question, mais ils l'ont bien compris d'ailleurs. Ils ont dit, ouais, mais si on dit qu'il vient du ciel, il dira pourquoi on n'a pas cru en lui. Vous voyez, donc il veut les appeler à reconnaître qui il est. Voici trois éléments qui me semblent importants de comprendre dans la question de Jésus. Et les chefs des Juifs ne sont pas dans l'inconnu. Jésus, en leur parlant du baptême de Jean, ne les met pas face à une énigme à résoudre, mais face à une évidence à reconnaître. Il ne les met pas face à une énigme à résoudre, mais une évidence à reconnaître. Et j'aimerais lire quelques textes dans l'évangile de Jean qui nous permet de comprendre cela, hein, qui s'est passé avant ce qui se passe dans ce texte de Marc 11. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Jean 1, on va lire plusieurs textes qui nous permettront de voir ce qui s'y est passé. Jean 1, verset 6, je laisse le temps de chercher Jean 1, vous gardez le petit doigt dans Marc 11, hein, on y reviendra évidemment, mais Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. On va au verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Témoignage très clair de Jean-Baptiste. Verset 19. « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il confessa sans le nier. Il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Témoignage très clair qui a été donné. Et même 2 ans avant, à Pâques, donc là on est dans la dernière semaine de Jésus, et c'est la semaine de Pâques, et 2 ans avant, dans Jean 5, eh bien on voit que Jésus lui-même a donné un témoignage très clair aussi. Dans Jean 5, verset 33. Jean 5, 33. « Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. » Donc Jésus fait rappel de ce qui s'était passé avant, c'est un rappel ici. « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, et ses paroles ne demeurent pas en vous puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Juste en passant, on voit que les pharisiens ne veulent pas répondre parce qu'ils ont peur des autres. Jésus ici disait très clairement, je ne reçois pas la gloire des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Donc il y a 2 ans, Jésus avait rappelé tout ça aux chefs juifs. Est-ce qu'ils l'ont oublié? Non, clairement pas. Voilà pourquoi Jésus, par sa question qu'il pose, en demandant, est-ce que le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes, Jésus veut mettre en lumière leur motivation, leur permettre de prendre leurs responsabilités et les appeler à reconnaître qui il est. C'est une question pleine de grâce, en fait, qui responsabilise les chefs juifs. En fait, répondre par une question à une personne qui nous veut du mal est souvent une bonne approche. Quand quelqu'un nous pose une question pour nous faire du mal, une très bonne approche, c'est de répondre par une question. Une question qui permet à l'autre de prendre ses responsabilités et de dévoiler ses intentions. Jésus, en quelque sorte, tend les mains à ses interlocuteurs en les aidant à craindre Dieu plus que les hommes. Et que vont-ils répondre? Vont-ils prendre leurs responsabilités? Reconnaîtront-ils qui est Jésus? Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Ils vont mettre en lumière leur motivation parce qu'ils mentent en disant qu'ils ne savent pas d'où vient Jésus. Ils ne prennent pas leurs responsabilités devant le peuple en donnant des indications claires de ce qui est de Dieu selon sa parole ou de ce qui n'est pas de Dieu selon sa parole. Ils sont calculateurs. Ils ne cherchent que leur profit personnel qu'ils pensent avoir acquis en ayant donné le droit de faire du commerce dans le temple et en recevant des dividendes. Pour encore mieux comprendre ce qui se passe ici entre Jésus et les chefs religieux, réfléchissons à une petite illustration. Un petit enfant, vous pouvez avoir en tête peut-être même un enfant de l'église, pourquoi pas, vient vers son père et très sérieusement lui demande « Par quelle autorité me corriges-tu ? Par quelle autorité me demandes-tu de ranger ma chambre ? Par quelle autorité me demandes-tu de manger des légumes ?» Comprenez l'idée. Eh bien, le père peut répondre à son enfant en lui posant une question. Qui nous a créés ? Et qui Dieu a-t-il utilisé pour que tu puisses venir au monde ? L'enfant sait que s'il répond, Dieu nous a créés et il t'a utilisé avec maman pour me donner la vie, l'enfant devra reconnaître sa place d'enfant face à son parent, qui a reçu l'autorité de Dieu pour l'éduquer, le rendre responsable et dépendant de Dieu. S'il répond à son père, je ne sais pas, parce qu'il n'a encore pas compris ou qu'on ne lui a pas enseigné, eh bien le père peut le lui expliquer, évidemment. Mais s'il répond, je ne sais pas, alors qu'il sait pertinemment et qu'il ne veut pas
se soumettre à son père, c'est qu'il s'oppose à l'autorité que son père a reçue de Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans notre texte ici.
La question de l'autorité est très bonne, si elle est sincère et vient d'un cœur prêt à reconnaître la vérité. Jésus a réellement vécu il y a 2000 ans. Il a réellement vécu il y a 2000 ans. Et s'il était vraiment ce qu'il prétendait être, une question similaire à celle posée aux chefs religieux nous est posée encore aujourd'hui. Jésus est-il Dieu ou un imposteur ? Il avait dit, le baptême de Jean vient-il du ciel ou des hommes, hein ? Jésus est-il Dieu ou un imposteur ? S'il est Dieu, cela signifie qu'il est primordial de l'écouter, de s'approcher de lui seul, qui peut nous libérer du juste jugement à cause de nos péchés et de lui obéir. S'il est un imposteur, tout ce qu'il a dit est faux. Et il n'y a absolument rien à garder d'un menteur pareil qui prétend d'ailleurs sauver celui qui lui fait confiance, qui indique que sa mort est efficace pour nous effacer nos fautes. Et la question est posée à chacun d'entre nous ce matin. Jésus est-il Dieu ou un imposteur? Et la réponse à cette question déterminera notre façon de vivre et notre éternité. Comment répondrons-nous à cette question? Comme les chefs juifs? Jésus, suite à ça, se met à enseigner en parabole. Si Jésus dit aux Juifs « Je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela », ce n'est pas parce qu'il veut cacher quelque chose. Mais comme nous l'avons vu, il veut responsabiliser ces personnes qui sont venues vers lui pour le tromper. Et la parabole qu'il enseigne ensuite permet clairement de comprendre d'où vient son autorité. Hein? Même s'il ne raconte pas premièrement cette parabole pour cela. Mais plutôt pour démontrer la patience de Dieu, la responsabilité des chefs religieux et les appeler à se détourner de leur dessein malveillant. Nous allons relire cette parabole pour l'avoir bien en tête et ensuite y entrer pour quelques explications. Donc revenons dans Marc 12, les versets 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis il envoya d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ses vignerons se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venons, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. « Que fera le maître de la vigne ? » Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Alors cette parabole est très très riche. Et nous pourrions nous arrêter sur beaucoup de sujets. Nous pourrions nous arrêter sur la méchanceté de ces vignerons, sur la manière dont ils ont traité les serviteurs du propriétaire, ainsi que leur action horrible de tuer l'héritier de celui qui leur avait mis la vigne à disposition. Mais nous n'allons pas premièrement nous arrêter sur ces éléments. En fait, je nous encourage à plutôt regarder l'attitude du propriétaire. Et la question de conclusion de Jésus, n'avez-vous pas lu, qui est le titre de ce deuxième point. Donc, arrêtons-nous sur l'attitude du propriétaire. Regardons la première attitude du propriétaire de la vigne. Quelle est la première attitude que vous trouvez au verset 1? Eh bien, le propriétaire donne tout ce dont les vignerons ont besoin. Nous aurons assez vite compris que le propriétaire représente Dieu. La vigne, c'est Israël, comme le dit bien Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 7 d'ailleurs était clair, qui disait ceci, Ésaïe 5, 7. « Or la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, et la justice, et voici le cri du vice. Alors si en Ésaïe, l'Éternel parle du problème de la vigne elle-même, Jésus, dans la parabole ici, parle des responsables du peuple qui sont les vignerons. Parlons donc de l'attitude du propriétaire. Le propriétaire plante une vigne. C'est le propriétaire qui plante la vigne. Le propriétaire plante une vigne. Ce n'est pas les vignerons qui ont planté la vigne. Deuxièmement, le propriétaire entoure la vigne d'une haie. Le propriétaire entoure la vigne d'une haie pour sa protection. Ce ne sont pas les vignerons qui ont entouré la vigne d'une haie. Ensuite, le propriétaire creuse un pressoir. Le propriétaire creuse un pressoir pour pouvoir transformer la récolte de raisins en jus. Ce ne sont pas les vignerons qui ont creusé le pressoir. Et le propriétaire bâtit une tour. Le propriétaire bâtit une tour pour stocker le jus qui deviendra du vin. La tour peut être utilisée pour s'abriter, pour ranger les outils, pour avoir un point d'observation sur toute la vigne et tant d'autres utilisations. Ce ne sont pas les vignerons qui ont bâti la tour, c'est le propriétaire. Le propriétaire donne tout ce dont les vignerons ont besoin. Il leur suffit de prendre soin de la belle vigne sélectionnée et plantée par le propriétaire et utiliser les moyens qu'il a mis à disposition. Et la location est avantageuse parce que les vignerons peuvent faire fructifier la vigne et en profiter pour eux, manger, boire et faire du commerce avec ce qu'ils récoltent de la vigne et garder la part du propriétaire selon le contrat convenu. Puisque la vigne ne leur appartient pas. La vigne appartient au propriétaire. Okay? C'est un peu comme aujourd'hui, si un patron vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour travailler, il vous donne un salaire et même un lieu où travailler. Rien ne manque. Les outils sont prêts à être utilisés, la sécurité est assurée, et il est normal et attendu que l'ouvrier travaille pour son patron, même s'il en retire des avantages pour lui-même. C'est normal. Rappelons-nous que Dieu nous donne également tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Il nous donne des capacités, des dons, des moyens, et ne demandera jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas. Il serait donc normal de vivre pour son patron, pour son créateur, qui d'ailleurs ne cherche que le bien ultime de ses créatures. Comme le patron ou le propriétaire nous donne tout ce que les vignerons ont besoin, Dieu nous donne également tout ce dont nous avons besoin. Qu'allons-nous en faire? Qu'en avons-nous fait? Eh bien, dans cette parabole, les vignerons utilisent à fond tout ce qu'ils ont reçu. Jésus ne s'attarde pas sur la rentabilité de la vigne ici, sur le travail des vignerons dans la vigne, le nombre de litres de vin qu'ils ont pu boire, qu'ils ont pu donner ou qu'ils ont pu vendre. Non, il ne s'arrête sur rien de tout ça. Il s'arrête sur la location de la vigne au propriétaire. Et là, nous voyons une deuxième attitude impressionnante du propriétaire. C'est, donc, on est en train de voir les attitudes du propriétaire. La première, c'est qu'il donne tout ce dont les vignerons ont besoin. La deuxième ici, c'est une attitude impressionnante. La patience extraordinaire du propriétaire. Avez-vous remarqué combien de serviteurs le propriétaire envoie vers les vignerons pour recevoir sa part des fruits de la vigne? Combien? Le propriétaire est juste. Il ne demande pas de salaire de la vigne avant la saison. Vous avez remarqué aussi, verset 2, la saison venue, il envoyait un serviteur. Donc il ne l'a pas envoyé avant. Il a attendu qu'il puisse lui donner ce qui lui revenait. Dieu ne demande pas de lui donner quelque chose que nous ne pouvons pas lui donner. Il attend la saison venue. Et il envoie son serviteur qui revient les mains vides et le corps rempli de coups. Qu'a pensé le propriétaire lorsque le premier serviteur est revenu les mains vides? C'est pas écrit. Nous ne le savons pas. Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il a envoyé un autre serviteur. Alors à ce stade, nous pouvons déjà nous rappeler l'histoire de David dans 1 Samuel 25, qui avait envoyé les serviteurs auprès de Nabal, hein, lui demandant quelque chose à manger pour les services de protection rendus. Le serviteur revient à vide. Alors là, il n'a pas reçu des coups physiques, mais il avait reçu des coups de parole. Hein. Et David envoie-t-il un autre serviteur?
Non.
Il va avec une armée pour détruire Nabal. Ici, dans cette parabole, ce n'est pas le cas. Le propriétaire de la vigne de Marc 12 envoie un deuxième serviteur, qui lui se fait franchement tabasser et revient à vide. Va-t-il envoyer une armée cette fois? Non, il envoie un troisième serviteur, qui lui d'ailleurs ne reviendra pas puisque les vignerons le tuent. Mais alors cette fois-ci, le propriétaire réagira-t-il? Les vignerons méritent depuis longtemps que leur vigne soit retirée et qu'ils soient jugés. Mais le propriétaire fait preuve ici d'une patience qui dépasse toute imagination. Il fait preuve d'une patience qui dépasse toute imagination. Même après les mauvais traitements, il envoie encore plusieurs serviteurs. Donc quand je vous demandais combien de serviteurs il a envoyé, le texte ne le dit pas. Il y en a un certain nombre. Donc le propriétaire fait preuve ici d'une patience qui dépasse toute imagination. Même après les mauvais traitements, il envoie encore plusieurs serviteurs. Jésus ne dit plus combien ici. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs montre l'insistance du propriétaire à donner la possibilité aux vignerons de répondre favorablement à sa demande de respecter leur contrat. De lui donner ce qui lui revient. Lui qui a donné tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre dans cette vigne et s'y réjouir. Et le propriétaire fait une chose impensable. Après tous les refus des vignerons de respecter ses serviteurs, il envoie son fils. Le respect du propriétaire passe par le respect du fils, également des serviteurs d'ailleurs. Mais pourquoi envoie-t-il son fils? Parce qu'il veut que les vignerons puissent se repentir de leur action et qu'ils puissent manifester le respect qu'ils lui doivent au travers de son fils. Une patience extraordinaire. Le propriétaire montre une patience phénoménale, un peu comme si le patron laissait un ouvrier se faire payer par les clients sans qu'il ne lui donne rien. L'ouvrier, il va vers le client, il fait le boulot, il reçoit l'argent, il le garde. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, sans rien dire d'autre que de rappeler à l'ouvrier qu'il doit donner l'argent qu'il reçoit des clients et qui lui appartient. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous n'avez pas donné au propriétaire divin ce qui lui revenait? Le Créateur nous a fait et nous a mis dans un cadre dans lequel il nous donne tout pour en jouir et nous demande... Il nous demande de lui rendre gloire. Voilà ce qu'il nous demande. À chaque fois que nous ne donnons pas gloire à Dieu pour ce que nous sommes ou ce que nous avons fait grâce à ce qu'il nous a donné, nous faisons exactement la même chose que les vignerons. À chaque fois que nous ne donnons pas la gloire à Dieu pour ce que nous sommes ou ce que nous faisons, nous avons fait grâce à ce qu'il nous a donné, nous faisons exactement la même chose que ces vignerons. Et Dieu est très patient avec nous. Quelle grâce immense! Si Dieu n'était pas autant patient, personne d'entre nous ne pourrait se présenter devant lui. Personne. Mais nous comprenons qu'à un moment donné, lorsque le Fils est envoyé et qu'il n'est pas écouté, ni reçu, ni reconnu, et pire encore, qu'il est tué et jeté hors de la vigne, tout le monde comprend qu'une limite a été franchie. Et même si la patience du propriétaire est extraordinaire et personne n'ira contre cette constatation, la justice va être faite. Et c'est la troisième attitude du propriétaire que nous voyons ici. Donc la première, c'est qu'il pourvoit à tous ceux dont les vignerons ont besoin. Le deuxième, c'est une patience phénoménale. Et troisièmement, le jugement attendu et sans surprise du propriétaire. Dans l'évangile de Marc, ici, il n'y a pas de dialogue avec ceux qui écoutent l'histoire. Dans Matthieu, en fait, il leur dit « Que fera le maître de la vigne ?» Et en fait, c'est les auditeurs qui répondent. La réponse ne se fait pas attendre, comme d'ailleurs David, lorsqu'il entend l'histoire que Nathan lui raconte. Vous connaissez l'histoire? Nathan, il lui dit, il y avait un homme qui avait une brebis, qu'il aimait, qu'il chérissait, qui était voilà, la seule brebis qu'il avait, et un riche qui avait plein de bétail, qui est un voyageur qui vient chez lui, et que fait-il? Il va prendre la brebis de celui qui en avait qu'une, il la tue, il la donne à manger à celui qui vient de passage. Waouh! La réaction est directe. David dit, attends, là il faut faire quelque chose. Cet homme mérite la mort. Mais comme ici, propriétaire envoie un serviteur, deux serviteurs, des serviteurs, des serviteurs. Le fils, il le tue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, il mérite la mort. Pour ceux qui ont entendu l'histoire des vignerons, la réponse est claire face à la répétition du mal commis par les vignerons. C'est l'indignation. L'indignation. Et il mérite d'être jugé. Donc ça, c'est un élément clair. Pour ceux qui ont entendu l'histoire des vignerons, la réponse est claire face à la répétition du mal commis par les vignerons, c'est l'indignation. Il mérite d'être jugé. Dans Marc, d'ailleurs, c'est même Jésus qui le dit en écho à ce que les gens qui écoutaient ont dit. Et l'indignation a sûrement augmenté au fur et à mesure que les serviteurs étaient envoyés vers ces vignerons. Et là, Jésus dit ceci, le propriétaire viendra, il fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. C'est le jugement attendu par tous, c'est tellement clair. Dieu est juste et il jugera chacun. Et quand il jugera chacun, ça sera clair. Vous êtes d'accord? C'est très clair ici qu'il mérite le jugement. Eh bien, quand nous serons devant Dieu, ça sera aussi clair que dans cette situation-là pour tous ceux qui méritent le jugement. Le vase de la patience de Dieu est immense. Il est immense, le vase de la patience de Dieu. Mais lorsqu'il est plein, c'est le jugement. Et certains se révoltent contre la goutte qui fait déborder le vase, alors qu'il y a des millions de litres qui ont rempli le vase. Le vase de la patience de Dieu est immense, mais lorsqu'il est plein, c'est le jugement. Certains se révoltent pour la goutte qui fait déborder le vase, alors qu'il y a des millions de litres qui ont rempli le vase. Pourquoi se plaindre du dernier pas qui fait tomber dans le précipice, alors qu'il n'aurait jamais fallu prendre la direction du précipice ? Dieu est très patient avec nous. Il nous appelle de diverses manières à revenir à lui avec 1, 2, 3, 10, 20 messages qui nous indiquent l'importance de nous rendre compte de la gravité de notre péché et de nous repentir. Un jour, la coupe sera pleine. Et quand elle débordera, ce sera trop tard. Lorsque le propriétaire vient vers les vignerons, lorsque lui-même arrive, est-ce qu'ils peuvent vite lui donner le fruit de la vigne? Non, c'est trop tard. Il n'est plus possible de rattraper ce qui n'a pas été donné, parce qu'il vient pour le jugement. Les avertissements ont été donnés, donnés et redonnés par tous les serviteurs et même le Fils qui est venu. Alors je ne peux que vous supplier, nous supplier de ne pas attendre que Jésus-Christ revienne. Lui qui est venu sur la terre une première fois pour donner sa vie, pour nous sauver, sauver ceux qui mettent leur confiance en lui. Quand il reviendra en gloire, ce sera pour le jugement. Et au moment où nous le verrons, ce sera trop tard pour s'en repentir. Trop tard. Et ça sera clair quand il revient. Alors au moment où Jésus donne cette parabole, il n'est pas encore mis à mort. Ceux qui l'écoutent peuvent encore arrêter quelque part leur entêtement. Cette parabole nous est donnée avant le retour du Seigneur. Il est encore temps de se repentir. Et il termine par une question, puisque les Juifs aiment les questions. En voici une importante. N'avez-vous pas lu? Car l'Ancien Testament, que les Juifs sont censés connaître, parle de la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Le psaume 118 au verset 22 et 23 qu'on a lu tout à l'heure est clair. C'est le salut qui vient de l'Éternel qui est rejeté. Jésus est rejeté et pourtant il deviendra le fondement principal de toute la foi en Dieu. La conséquence inattendue des gens ici pour le jugement, c'est que les chefs juifs ont compris qu'ils sont les vignerons. Par contre, ils continuent à se borner à vivre exactement comme les vignerons de la parabole. C'est terrible. Vous savez, il y a des gens qui comprennent qu'ils sont pécheurs. Oui, je suis pécheur et je vais aller en enfer. Et il continue sur ce chemin. C'est horrible. Jésus va donc un pas plus loin. Il dit que la pierre rejetée est en fait la principale, celle de l'angle, pour l'aider encore à ouvrir les yeux. Si vous faites une construction, la pierre qui est au coin est fondamentale, parce que tout le bâtiment, en fait, est posé sur cette pierre. La direction est donnée par cette pierre. Imaginez une pierre assez grande, pas un petit caillou. Si vous avez le petit caillou dans la tête, vous n'allez pas comprendre. Une grande pierre, hein, 3 mètres, bon, ça c'est 2 mètres. Enfin, 3 mètres sur 3 mètres, hein, une grande pierre qui fait l'angle. Que les Juifs pouvaient voir d'ailleurs dans le temple, puisque Jésus leur parlait dans le temple. Ils voyaient les grandes pierres. Si la pierre de l'angle n'est pas solide, tout le bâtiment peut s'effondrer. Si la pierre est mal posée, tout le bâtiment sera penché, sera difficile de construire ou mettre des portes, des fenêtres, etc. La pierre de l'angle est essentielle. Elle donne la direction, elle donne la solidité de tout le bâtiment. Voilà pourquoi Paul dira dans Éphésiens 2:20, qu'on a lu tout à l'heure, pour ça qu'on a lu, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » D'ailleurs, en parlant de pierre, le prophète Daniel parle d'une pierre qui vient, qui brise la grande statue et qui grandit, qui remplit toute la terre. Ça, la fondation, si on veut. Hein. C'est écrit. N'avez-vous pas lu ? Jésus-Christ est le fondement. Donc, celui qui rejette Jésus-Christ rejette le fondement d'une vie rachetée, d'une vie éternelle. Alors pour terminer cette prédication, que ferons-nous ? Quitterons-nous Jésus pour nous en aller dans la vie courante et oublier ce que nous avons entendu ce matin et même aller contre ce qu'on a entendu comme les chefs religieux ? Mais n'avez-vous pas lu ? Ferons-nous semblant de ne pas savoir ? Ah, je ne sais pas. Est-ce que Jésus vient du ciel ? Est-ce qu'il est Dieu ? Ah, je ne sais pas. Dire « je ne sais pas », c'est le rejeter ici. Ou reconnaîtrons-nous l'autorité de Jésus, la bonté, la patience de Dieu? Une patience extraordinaire. En tout cas, si vous repartez ici en comprenant que cette parabole démontre la patience extraordinaire de Dieu, c'est merveilleux, c'est vrai. Approchons-nous de Jésus pour être pardonnés de nombreuses fois. Et les nombreuses fois où nous n'avons pas donné au propriétaire de la vigne sa part, demandons pardon, afin que le vase de la patience de Dieu soit vidée et ne puisse jamais déborder contre nous. Reconnaissons Jésus-Christ qui est l'autorité de Dieu. Plaçons notre foi en lui et vivons selon ses instructions. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de voir la manière dont tu réponds à ceux qui te veulent du mal. Tu le fais, Seigneur, en posant une question. Et en fait, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous pose des questions pour nous guider, pour nous donner cette grâce de venir à toi, de comprendre notre état, de nous détourner de notre péché et de nous réjouir que jusqu'ici tu ne nous as pas rejetés, alors qu'en fait, tu aurais pu le faire comme le propriétaire de cette vigne, qui aurait pu le faire tellement souvent de venir et détruire ses vignerons. Seigneur, si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant pour nous, c'est parce que tu es patient. Et j'aimerais te prier, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ici n'aille jusqu'à la limite de ta patience. N'aille jusqu'à ce vase rempli qui fait que la dernière goutte amène au jugement mérité duquel nous ne pouvons plus échapper. Ô Seigneur, permets que tout ce vase rempli puisse se déverser sur Christ à la croix qui a pris sur lui le jugement. Parce que nous plaçons notre foi en lui, parce que nous nous repentons de nos péchés et parce que nous nous réjouissons de vivre selon toi. Oh, guide-nous, Seigneur, donne-nous la joie d'annoncer un évangile d'un Dieu patient et d'un Dieu aussi qui est juste. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon toi, à être des vignerons qui prennent soin de ta vigne que tu nous as donnée et à te glorifier à chaque instant. Parce que tu en es digne. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.lrbbaptiste.org. www.ebn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.